Bonjour à tous. Je vois pas mal de visages que je ne connais pas forcément ou pas forcément bien. Alors soyez tout particulièrement les bienvenus à ceux qui êtes peut-être là pour la première fois ou de passage. Alors juste pour ceux qui sont là, qui n'étaient pas là dimanche dernier, que vous soyez de passage ou pas, on a commencé une série de messages sur le livre de l'Exode. On a lu ensemble le livre de l'Exode, et on a commencé une série de prédications donc, sur ce livre. Et dans ce livre, on veut ensemble voir le Dieu de gloire qui se révèle à son peuple, et qui se révèle, on le voit dans l'ensemble du livre, en trois étapes, de trois manières. Il se révèle en délivrant son peuple, ensuite en faisant alliance avec lui, puis même en venant habiter parmi le peuple. Et donc, Matthieu, la semaine dernière, nous a juste ouvert le début du livre, ce premier épisode de la série. Et on a pu voir que Dieu veillait malgré tout sur son peuple, malgré la colère de Pharaon, malgré l'esclavage dans lequel ils étaient. Et ce matin, on arrive au début du chapitre 2, et on arrive avec une histoire qui, je suis sûr, est peut-être, en tout cas, une de celles qui sont les plus préférées des enfants, c'est la naissance de Moïse. Je suis sûr que tout le monde connaît par cœur cette histoire, cet épisode, avec la naissance de Moïse. Alors aujourd'hui, le but, ça ne sera pas, je ne crois pas, de se comparer à Moïse. Des fois, on aime bien se comparer hein, aux grands hommes de la Bible, aux grandes femmes de la Bible, mais... Allez, soyons honnêtes, je ne crois pas que parmi nous, ou si c'est le cas, que Dieu me pardonne, mais je ne crois pas que parmi nous, il y a quelqu'un qui ait le destin de Moïse, qui soit appelé à délivrer son peuple. Alors des fois, c'est bien de pouvoir se comparer, ou au moins tirer des leçons de ce que Dieu fait au travers des personnages de la Bible, mais il ne faudrait pas non plus tomber dans un certain orgueil. En voulant se comparer à des personnes grandes. On était avec David un tournoi de volley vendredi soir, un tournoi organisé par Joavi, une association chrétienne, et moi j'avais ramené une équipe du volley de l'entreprise, et il y a toujours dans ces soirées, dans ces nuits du volley, un témoignage d'un des joueurs. Et la personne qui a témoigné le vendredi a commencé, son sujet c'était l'orgueil. Et il a commencé en racontant une petite anecdote vraie avec Mike Tyson. Tyson. Je ne suis pas grand fan de boxe, mais j'ai déjà vu la vidéo où il arrache, je crois que c'est lui hein, qui arrache l'oreille de son adversaire, bref. Un bon gaillard, ce Mike Tyson. Et l'histoire raconte que, l'anecdote raconte que un jour, Mike Tyson prend l'avion, et il ne s'attache pas. Alors l'hôtesse qui vérifie toujours que les gens sont bien attachés arrive à sa hauteur et lui dit « Monsieur, merci de vous attacher ». Et il répond « Superman n'a pas besoin de ceinture ». Je fais bien, hein, Mike Tyson. « Superman n'a pas besoin de ceinture ». L'hôtesse lui répond « Superman n'a pas besoin d'avion ». Cassé, hein. Là, on ne voudrait pas se comparer à Mike Tyson. Mais on est des fois un peu dans cet orgueil, non? Alors ce matin, plutôt que de vouloir se comparer à quelqu'un, j'aimerais qu'ensemble, on puisse voir ce que Dieu fait. Le chapitre 2, c'est le début de la fin d'une longue attente. Ça fait 350 ans que le peuple d'Israël attend la délivrance que Dieu a promis, que Dieu avait annoncé à Abraham. Mais pour nous qui connaissons l'histoire, on sait qu'il reste encore 80 ans quand Moïse naît. C'est que 80 ans plus tard que le peuple sort d'Égypte. Le peuple, lui, ne savait pas combien de temps il fallait encore attendre. Quand vous allez aux urgences, vous savez que vous allez devoir attendre. La première fois que je suis allé aux urgences à Montbéliard, c'est quand je me suis fait le premier ligament croisé au genou gauche. J'ai attendu 6 heures. Plus le temps passait, plus la douleur augmentait. Mais je savais qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter. Que j'allais voir un médecin, qu'ils allaient faire quelque chose. Ils ont fait quelque chose, ils ont encore plus pleuré. Mais il y avait une fin de programmer. Là, le peuple attend, ne sait pas quand est-ce que la délivrance va arriver. Mais la chose que j'aimerais qu'on voit ce matin ensemble, avec cette naissance de Moïse, c'est comment le Dieu de gloire révèle son caractère, dévoile son projet, en préservant celui qu'il a choisi et sa famille. Regardez avec moi comment Dieu a préservé Moïse. Et je crois que si on arrive à voir comment Dieu agit, nous pourrons aussi, pour nous, ce matin, nous dire quand je dois attendre, je peux malgré tout faire confiance à Dieu. Parce que Dieu sauve, Dieu préserve. Alors lisons ensemble le début du chapitre 2 de l'Exode. C'est les versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Mais ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenaient au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et dit « C'est un des enfants des Hébreux ?» Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ?»« Va, » lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler sa mère, la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alors comment Dieu montre son caractère, son projet, malgré que le peuple doive attendre? Dans le début de cette histoire, on voit que Dieu préserve et que Moïse est caché. 3 mois où Moïse va rester caché. Alors on apprend que Moïse, c'est un descendant de par son père et sa mère de la tribu de Lévi. Donc, ça veut dire que ce gars-là est destiné à servir Dieu. Moïse écrira tout ce que les Lévites doivent faire pour le service de Dieu dans le temple, dans le tabernacle d'abord. Puis on apprend autre chose de ce petit garçon. Il est beau. Bon, normal, vous voulez me dire, tous les parents, toutes les mamans disent que leur enfant est beau, non? Il faut savoir que ces quelques lignes qui résument quelques années de la vie de Moïse sont reprises dans le Nouveau Testament. Étienne, le martyr, quand il va interpeller ses frères, ses pères, et qu'il va leur retracer toute l'histoire de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a révélé à son peuple. Il va rappeler cette histoire. Dans l'épître aux Hébreux, on a aussi, dans le chapitre 11, le chapitre sur la foi, ce passage qui est rappelé de la foi des parents de Moïse. Et notamment, c'est Étienne qui le dit dans son discours. Il dit, Moïse était beau aux yeux de Dieu. Ce n'était pas seulement aux yeux de la mère. Dans Hébreux, c'est dit qu'il était beau aux yeux des parents. Non, c'est aussi aux yeux de Dieu. Alors, je crois que par ce mot « beau », il ne faut pas seulement voir une beauté esthétique, c'est d'ailleurs même dans le sens du mot en hébreu. Ce n'est pas que l'esthétique, c'est aussi une question, on va dire, qualitative. Il me semble, et c'est des théologiens aussi qui l'ont dit comme ça, que la mère, en fait, a vu dans la beauté de son fils comme la marque d'une excellence qui allait venir, comme le signe d'une bénédiction divine, l'indice d'une vocation imminente. Tout le peuple, toutes les femmes, quand elles accouchaient, espéraient que leur enfant soit le libérateur. Et en voyant la beauté de l'enfant, la mère se dit, mais là, il y a quelque chose de spécial. Je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre dans l'état d'esprit de l'époque. Juste pour information, il n'y avait pas d'échographie à l'époque, jusqu'à la naissance, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Ça veut dire que pour les parents, j'imagine, il devait y avoir une angoisse, mais de dingue. Si c'était une fille, ouf, merci Seigneur, parce que elle n'allait pas mourir, ou le pharaon n'allait pas chercher à la faire mourir. Mais si c'était un garçon, comment on va faire? On a vu dans le chapitre d'avant la foi des sages-femmes qui, en rusant, n'ont pas fait ce que le pharaon voulait. Et c'est pour ça que le pharaon s'est un peu, on va dire, énervé et a dit maintenant, tous les enfants doivent mourir, tout le peuple doit accomplir cette tâche, faire mourir les garçons. La foi des sages-femmes, la foi des parents. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que la Bible, dans l'ensemble, a cette qualité pédagogique pour nous enseigner des choses. Dieu, qui est excellent en toutes choses, il utilise la vie d'hommes et de femmes pour nous faire comprendre la théologie, c'est-à-dire pour nous faire comprendre qui il est. Je crois, même si, comme je disais au début, on n'est pas Moïse, mais je crois que ce que Dieu a fait avec Moïse, il peut le faire avec nous à des degrés différents. Dieu veut que l'on puisse croire en lui, qu'on puisse rentrer en relation avec lui. Là, on lit une histoire du passé, mais cette histoire qui s'inscrit dans la grande histoire, elle va avoir un impact jusqu'à aujourd'hui, jusque dans l'éternité. Alors, une maman qui voit son enfant qui est beau, mais qui, derrière ça, voit plus, et la parole nous confirme que, oui, l'histoire nous confirme que Dieu avait un projet et qu'il était beau aux yeux de Dieu. Mais je me suis dit, mais punaise, Il a fallu une sacrée foi à la maman pour cacher son garçon durant 3 mois. Vous êtes esclave dans le pays le plus civilisé, le plus riche, avec le pharaon, le roi du monde de l'époque. Ça fait 350 ans que votre peuple subit l'esclavage. vous êtes là à attendre la délivrance que Dieu a promis à un ancêtre. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de visible pour dire, mais ça va changer peut-être un jour. Mais cette femme fait le choix de ne pas obéir à Pharaon, mais d'obéir à Dieu. La première leçon, je crois, de cette petite histoire, c'est que Dieu donne de comprendre certaines choses spirituelles et qui sont du domaine de l'invisible à ceux qui se consacrent à Dieu, à ceux qui se confient en Dieu. Et à l'inverse, Dieu n'accorde pas une certaine connaissance à ceux qui sont plutôt négligents avec Dieu. Si vous, voilà, vous vous dites chrétien, vous avez choisi un jour de suivre Dieu, mais que finalement, vous vivez un peu comme tout le monde, votre foi, ce n'est pas ça qui est le plus important, visible, conséquent dans votre vie. Dieu ne vous accordera pas de discernement, de connaissance. Dieu veut qu'on se consacre à lui, quelles que soient les circonstances, pour qu'on puisse mieux le connaître et mieux discerner ce qui vient, ce qui est. J'aimerais vraiment encourager, et notamment les plus jeunes dans la foi, un comportement discipliné dans la démarche de foi. Une vie authentique. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous montrez même. Ce qui compte, c'est ce que vous faites par rapport à votre cœur. Qu'est-ce que vous faites quand il y a une mauvaise pensée? Est-ce que vous êtes radical, que vous dites « Non, je ne veux pas ça. Seigneur, pardonne-moi. Je veux déposer ça à la croix. » Ou est-ce que vous faites avec et puis personne ne le sait de toute façon? Si vous ne voulez pas être des chrétiens qui vivotent, qui végètent, si vous ne voulez pas être des chrétiens qui se plaignent constamment, attachez-vous à Dieu et ayez une foi qui soit authentique, un cœur qui soit à 100%. Ça ne veut pas dire un cœur parfait. Personne n'est parfait. Mais un cœur qui, à chaque fois qu'il y a besoin, revient à Dieu. Je suis sûr que ce que je connais aujourd'hui de Dieu, c'est qu'un tout petit peu de ce qu'il aimerait que je connaisse d'ici la fin de ma vie. Et je sais que c'est pareil pour vous. Ce que vous savez aujourd'hui de Dieu, c'est rien par rapport à ce que Dieu veut que vous connaissiez de lui. J'aimerais aussi m'adresser aux parents en lisant cette histoire. Vous qui avez des enfants ou qui aimeriez avoir des enfants, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants? On peut souhaiter plein de bonnes choses, mais si vous ne souhaitez pas leur transmettre la foi, ça ne vaut rien. Moïse a passé peut-être 2, 3, 4 ans jusqu'à son sevrage. À l'époque, les mamans allaitaient sûrement assez longtemps, même jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hein. Mon père, qui n'est pas si vieux que ça, a été allaité jusqu'à 3 ans. Moïse, qui a été quelques années avec sa maman, son papa, ses frères et sœurs, 40 ans plus tard, fait un choix pour son peuple, pour Dieu. La seule chose qu'on connaisse des parents de Moïse, c'est cet acte de foi. Foi qu'ils ont, à tout sûr, transmis à Moïse. Ils ont donné envie à Moïse d'avoir cette même foi. Aujourd'hui, on est dans une époque où, si on écoute ce que nous dit le monde, ce que nous disent les psychologues et autres, on aurait plutôt tendance à dire « Ah non, on ne doit surtout pas influencer nos enfants pour qu'ils fassent leur choix. » Ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. La Bible dit « Inculquez à vos enfants. » Ça ne veut pas dire « bourrer le crâne », mais ça veut dire « vivre avec pour qu'ils voient combien la foi que vous avez est ce qu'il y a de plus important. » leur annoncer l'évangile en toutes circonstances, quels que soient les doutes, quels que soient les pleurs, quelles que soient les situations. C'est notre façon de vivre qui va inculquer les bonnes choses et le souhait d'une foi en Christ, en Dieu, dans le cœur de nos enfants. Nos enfants n'ont pas demandé à naître dans une famille chrétienne évangélique. Et j'espère que nos enfants ne sont pas écœurés, mais qu'ils ont juste envie de vivre les mêmes choses que nous. On doit être des modèles dans notre disponibilité, dans notre service pour Christ, que ce soit au travail, à la maison, avec nos amis, nos voisins, à l'église. Moi, ce qui me marque, c'est cette maman qui s'en remet à Dieu avec intelligence. La foi, ce n'est pas que être acteur, sinon ce n'est plus la foi. La foi, ce n'est pas que être spectateur, sinon ce n'est plus la foi. La foi, c'est être acteur et spectateur. S'en remettre à Dieu et faire tout ce que Dieu nous donne de faire. Je prie que Dieu, par son esprit, vous pousse à prier pour vos enfants, même si vous n'en avez pas encore, et surtout si vous en avez déjà, pour que vos enfants connaissent le Dieu vivant et vrai. On a besoin de donner à nos enfants une identité dans cette culture où tout est tellement déstructuré, émietté. On a besoin de leur apprendre des choses, on va dire de manière académique, mais on a besoin de leur apprendre des choses par l'exemple, par la mise en pratique, par une foi vécue. C'est ce que Dieu veut, un mariage entre des connaissances qu'on apporte et un exemple qu'on donne. Alors ce petit Moïse était caché, ça a duré 3 mois, un véritable acte de foi. Mais comment Dieu va-t-il préserver ce petit garçon ? On pourrait discuter longuement, et j'ai lu un certain nombre de commentaires qui discutent de ce, pas du premier acte de foi, de protéger durant 3 mois, mais du deuxième acte de mettre le bébé dans cette mini-arche sur l'eau. Je me suis rappelé, et j'ai recherché pour voir si ma mémoire ne me jouait pas des tours, mais je me suis rappelé d'un incendie qui a eu l'été dernier à Londres. C'était dans la Grenfell Tower à Londres, un grand immeuble de 24 ou 25 étages qui a pris feu durant la nuit. Il y a 79 morts, je crois, ou 80 morts dans cet incendie. Et il y a une anecdote, et j'étais vérifié si c'était juste, que j'avais entendu à l'époque, mais il y a une maman qui, prise dans les flammes, a appelé au secours, et dans un geste de désespoir, a lancé sa petite fille du 5e étage. Et heureusement, il y a un homme qui l'a rattrapé en bas. Je ne sais pas si c'est... Je ne veux pas dire que j'interprète bien ou pas bien la Bible, mais je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut le comprendre. Mais quand je lis cette histoire, l'acte de la maman, moi je vois que l'acte... Un acte désespéré qui se dit, mais si on ne fait pas ça, ça peut être encore pire pour la famille, pour les autres enfants. Qu'est-ce qui vaut mieux, avoir des enfants orphelins, sans père ni mère, ou les deux, ou juste s'en remettre à Dieu en mettant ce bébé sur cette arche et on va voir comment Dieu préserve. Une mère qui reste anonyme, on n'a pas son nom dans l'histoire, va faire un geste qui lui a terriblement coûté. Probablement la seule chose qui pouvait pousser, probablement que la seule chose qui pouvait pousser à faire un tel geste, c'est de savoir que de ne pas le faire serait encore pire. Mais, ouf, on va dire, comme dans l'incendie, l'histoire se finit bien. Alors Dieu préserve quand l'enfant est caché, mais Dieu préserve aussi quand l'enfant est découvert. On a cette nouvelle personne qui arrive dans l'histoire, cette fille du Pharaon. Et on voit là un retournement de situation de plus. Dieu préserve au travers de la fille du Pharaon cet enfant Moïse. Ça n'a pas fait la une des journaux à l'époque, hein. Ou du papyrus, du quoi. C'est une délivrance totalement discrète, complètement discrète. Ce que j'en tire de ça, c'est que, encore aujourd'hui, Dieu utilise des gens ordinaires, comme vous et moi, des gens de son peuple, une maman anonyme, une grande sœur, une grande, elle n'était pas forcément très âgée, hein, la petite Myriam, mais plein d'audace. Il utilise des gens ordinaires, parfois en même temps des gens extraordinaires du monde, un peu à leur insu, mais il utilise pour envoyer un message extraordinaire. Dieu est en train de préparer la délivrance de son peuple, est en train de préparer un moyen de réconciliation pour le monde entier. Aujourd'hui, nous qui ne sommes pas des Mike Tyson, qui ne sommes pas des Moïse, on peut juste reconnaître qu'on est des gens ordinaires. Mais Dieu a un message extraordinaire à faire passer au travers de nous. Dieu qui s'est révélé dans la Bible, qui depuis a encore agi, qui agit dans nos vies, veut que nous disions à ceux qui nous entourent, avec la qualité de parole que l'on a ou pas, ou avec ce qu'on sait faire ou dire, mais vu qu'on dise, qu'on annonce que Dieu est là pour libérer d'un mal plus profond que l'esclavage, un mal qui s'appelle le péché, un mal qui éloigne de Dieu, un mal qui éloigne de la seule et vraie source de bonheur. Alors c'est que cette histoire de Moïse, il y a souvent des critiques ou des personnes qui disent « Oui, mais l'histoire-là de Moïse, c'est un peu en fait comme pas mal d'histoires de l'époque ou un peu plus tard, où en fait, on prend un héros et puis on montre comment ce héros, puis c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les films, même encore aujourd'hui, on montre comment le héros, il frôle la mort avant de devenir quelqu'un de vraiment super grand, un super héros. Et là, est-ce que c'est pas ce que Moïse a cherché un peu de faire et ça? Ah non, pas du tout. Quand on lit bien toute l'histoire de Moïse, Moïse, il finit pas en super-héros. Moïse, on voit ses faiblesses. Moïse n'entrera pas dans la terre promise. En fait, si. J'ai pensé en préparant hier soir, je me dis, mais en fait, si. De son vivant, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, mais Dieu qui est bon lui a donné à la transfiguration d'être auprès de Jésus dans la terre promise. On n'aura pas tout de notre vivant, mais il y a tellement de choses que Dieu a en réserve pour nous, de bonnes qu'il veut pour nous. Alors c'est vrai que dans les histoires de toutes les divinités de l'époque, etc., on a des histoires qui ressemblent un peu à celles de Moïse, hein, où le gamin est jeté dans un fleuve, récupéré par une déesse, etc. Il y a un peu des choses qui ressemblent. Mais à chaque fois, c'est embelli, c'est un peu extrapolé, etc. Tout ça pour montrer le héros qui masque juste le vrai héros à venir, qui est Jésus. Moïse ne cherche pas à prendre la place d'un plus grand. Moïse est juste, en fait, dans ce que Dieu fait, une annonce, une ombre de celui qui est le seul vrai héros, qui est Jésus. Mais l'ennemi, lui, fait de pâles copies qu'il essaye d'embellir pour nous tromper. Dieu, lui, ne fait que distiller et annoncer son plan. Alors, revenons un peu à la famille de Moïse. Pas celle qui sera sa famille, la fille du Pharaon et toute la famille de Pharaon, mais sa famille de départ. Je me suis quand même fait une remarque, et là je vais m'adresser tout particulièrement au père. Parce que j'ai comparé un peu ce que disent les trois passages, donc Exode 2, ce que dit Étienne dans Acte 7, ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux 11. Et je me suis rendu compte, alors pareil, c'est ma compréhension, mais je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un silence coupable d'une personne. Il y a une personne qu'on mentionne tout au début, qu'on ne rementionnera plus jamais, et où Étienne laisse entendre qu'il y a eu un silence coupable. Cet homme, cette personne, c'est l'homme, c'est le papa. Étienne, dans Acte 7, je vous lis, pour que vous compreniez. Étienne qui s'adresse à ses pères, à ses frères, qui leur montre comment leurs pères, les anciennes générations, ont rejeté ce que Dieu était en train de leur dévoiler, qui leur dit à plusieurs reprises, mais vos pères, va dire, en parlant de l'histoire de Moïse, c'est dans Acte 7 au verset 19, le roi, ce pharaon donc, qui avait une habileté perfide envers notre race, maltraita nos pères au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne conservent pas la vie. À cette époque naquit Moïse, qui était beau devant Dieu. Il fut nourri durant 3 mois dans la maison de son père, et quand il fut abandonné, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Même si je crois en l'acte de foi de la maman qui s'en est remis à Dieu, elle n'a pas tué son fils, hein. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un absent, qui était là au début mais qui n'était plus là après. C'est le père. Et j'en tire cette interprétation parce que ce qui est sûr, en tout cas dans la Bible, c'est que le mal profond de nous, les gars, depuis le début, c'est le silence coupable. C'est ce que n'a pas dit à Adam quand le serpent a parlé à Ève. Parce que ça aurait sûrement changé les choses. Il y a parfois, on ferait mieux de se taire, nous les gars, pour des futilités, il n'y a pas besoin de parler. Il y a parfois, il y aurait besoin de l'ouvrir pour enseigner nos enfants, nos épouses, conduire nos familles, dire où est la justice, où est la vérité. Et il me semble, si vous me permettez cette interprétation, qu'il y a eu un peu un défaut du père. Même si Hébreux dit, et c'est vrai, que c'est la foi des parents, mais il me semble quand même que le papa a fait un peu défaut. Et si, vous, hommes dans cette salle, vous vous sentez un peu à l'image, alors prenez-le pour vous, comme je l'ai pris pour moi, et disons dans nos cœurs, Seigneur, je ne veux pas être le père absent pour mes fils, pour mes filles. Je veux être celui qui prend soin, celui qui nourrit, celui qui préserve comme Dieu préserve, celui qui garde. Alors voilà, on a une situation qui est tragique, mais on voit ce que Dieu est capable de faire. Une situation qui nous dépasse complètement, un acte de foi en détresse, je ne sais pas comment il faut le résumer, mais quand même, une confiance dans le Dieu très haut, sans savoir ce qui va se passer, mais finalement Dieu, même quand les choses sont au plein jour, sont révélées, sont découvertes, Dieu préserve encore. Et tout d'un coup, et c'est presque un peu une ironie hein, dans ce que nous a raconté, il y a une inversion et les choses reviennent. Dieu rétablit l'ordre naturel et fait en sorte que c'est finalement quand même la maman qui va s'occuper de son bébé. Un enfant qu'elle a mis dans une mini-arche. Alors est-ce qu'elle a été inspirée par l'histoire de Noé? Je ne sais pas. En tout cas, les deux seules fois où on a ce mot de l'arche, c'est avec Noé et c'est là, avec Moïse. J'ai parlé des enfants, des mamans, des papas. Je ne vais pas oublier le peuple dans l'histoire. Le peuple, il est en train de continuer à souffrir, là. On voit à la fin du chapitre 2 que le peuple continue et soupire après la délivrance. Dieu protège Moïse pour délivrer son peuple. Alors oui, c'est vrai, Dieu peut permettre des périodes qu'on appelle d'épreuves, mais que là j'appellerais d'attente. C'est peut-être mieux de le voir comme ça. Une période d'attente. Une période, comme le dit un psaume, de sombre vallée. Mais même quand on est dans cette période d'attente, Dieu continue à agir envers nous. Parce que, aux yeux de Dieu, l'attente n'est jamais vaine. Attendre, ça ne sert jamais à rien. Dieu est en train d'écrire une histoire. Une grande histoire. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que notre petite histoire, individuelle, familiale, l'histoire de notre assemblée, s'inscrit dans une histoire plus grande. Quand on a choisi de prendre ce livre pour les prédications, je me dis, mais c'est chouette parce que j'ai envie qu'ensemble, on se rappelle comment Dieu délivre. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu veut encore délivrer beaucoup de monde. Dans nos familles, dans nos enfants, dans nos proches, dans nos voisins. Dieu délivre et veut encore le faire aujourd'hui. Souvent, on a du mal à comprendre pourquoi il y a une épreuve, pourquoi il y a une attente, parce qu'on ne le voit que pour nous. Je me souviens, je l'ai peut-être déjà raconté une fois, mais quand j'avais 17 ans, j'ai failli me noyer dans un camp au Portugal. Et heureusement, j'ai échappé. Miraculeusement, Dieu a permis que j'échappe à la noyade. Mais le soir, dans mon lit à l'hôpital, je dis, mais Seigneur, pourquoi ? Ça ne me sert à rien, cet épisode-là. Je n'ai pas besoin de ça, le camp était super, c'était en plus la fin du camp, je vais louper des trucs. Ça ne me sert à rien. Dieu est bon parce que le lendemain matin, il m'a donné la réponse tout de suite. Ma mère est venue me voir et m'a dit, mais ce qui s'est passé, ça a bouleversé 4 jeunes. Et hier soir, ils ont donné leur vie à Christ. Un an après, et j'ai retrouvé il y a une semaine, en faisant un peu du tri chez nous, là, j'ai retrouvé une photo des 4 baptisés qui m'avaient envoyé après le jour du baptême. Ils n'étaient pas que 4, ils étaient 15 ou 20, mais en tout cas, il y en avait 4 que je connaissais de l'église là-bas, à Faro. Sur le moment, j'étais incapable de voir, de comprendre qu'est-ce qui se passait et pourquoi ça se passait. J'avais juste oublié, je suis comme vous, hein, que bien souvent, quand Dieu nous fait passer par quelque chose, quand Dieu nous fait attendre, même si c'est douloureux, même si on ne sait pas quand est-ce que ça finit, parce qu'on sait rarement quand est-ce que ça finit, c'est parce que Dieu est bon, pas qu'avec nous, mais pour beaucoup d'autres autour, et qu'il a envie que d'autres soient délivrés, pas que moi tout seul, pas que moi et ma famille, mais bien plus que cela. Alors vous attendez peut-être quelque chose, une vie meilleure, la fin d'un conflit, la fin d'une convalescence, une guérison, un conjoint, un amour plus grand pour Dieu, une foi plus vivante. Mais retenez ceci ce matin, c'est que Dieu a prévu des temps que j'appellerais de formation pour chacun de nous. Et temps de formation qui ne dépendent pas que de nous. C'est normal quand c'est long de soupirer, comme le peuple. Mais n'oubliez pas que Dieu a en vue la délivrance de bien des choses dans votre cœur, oui, mais aussi la délivrance de beaucoup qui sont autour de vous. Quand on a décidé il y a quelques semaines de dire on va mettre plus de chaises, c'est pas juste parce qu'on veut plus de monde et que ça fait bien si on est plus nombreux. C'est parce qu'on veut qu'il y ait des gens qui soient délivrés, qui soient là pour louer Dieu avec nous. J'ai toujours bien aimé ce pasteur en région parisienne. C'est une des plus grandes églises évangéliques en région parisienne. Il disait, waouh, ouais, super, on est 400, 600, je ne sais plus combien ils sont maintenant, peut-être 800, 1000. Mais tous les dimanches, à une époque, il rappelait, c'est à Porto-Cobo, il disait, mais il y a encore, je ne sais pas, peut-être 29 950 gens de Porto-Cobo qui ne sont pas là ce matin. C'est ces gens-là qui ont aussi besoin de délivrance. Ce n'est pas que juste pour nous. Je ne sais plus où j'en suis, je vais arriver à donner. Dieu préserve quand les choses sont cachées. Dieu préserve quand les choses sont découvertes. Et j'aimerais juste finir avec ce petit dernier verset, le verset 10. Dieu préserve quand tout d'un coup, on donne un nom. Quand il y a une histoire qui va s'écrire. Moi, ce que j'ai trouvé très fort en lisant ce passage, c'est que les cyclistes, un cycliste a dit une phrase bien connue, c'était à l'insu de mon plein gré. Là, je crois qu'il y en a une qui, après coup, je ne sais pas s'il a eu toute l'histoire, je ne sais pas s'il était déjà encore vivante, la fille de Pharaon, s'il était encore vivante quand Moïse est sorti d'Égypte avec le peuple, mais il y en a une qui aurait peut-être pu se dire, c'était à l'insu et avec mon plein gré. C'est elle qui a sauvé le bébé. Elle savait qu'elle était en train de faire un truc que son père n'avait dit qu'il ne fallait pas faire. C'est elle qui a recueilli l'enfant. C'est elle qui a donné le nom à Moïse. Moïse, ça veut dire tirer de. Et bien sûr, en connaissant l'histoire, la vraie histoire, on en conclut souvent ce qu'on entend. Moïse, ça veut dire sauver de, sauver des eaux. Mais ce petit nom, tirer de, pour les Égyptiens, ça voulait dire aussi engendrer. Il y avait beaucoup de pharaons ou de fils de pharaons qui s'appelaient quelque chose Moïse. Tout Moïse. Parce que ça voulait dire que c'était le fils de. La fille de Pharaon, elle appelle ce garçon Moïse. Comme si finalement c'était son fils, et donc c'est dans la lignée de Pharaon, hein, vous avez vu l'entourloupe là. Sans savoir, elle est en train d'écrire pour Dieu l'histoire que Dieu, lui, a décidée. On ne sait pas grand-chose sur ce que les parents de Moïse ont fait avec Moïse durant ces 2, 3, 4 années où il était avec eux. On ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui s'est fait. Mais clairement, et ça, ce sera le prochain épisode, je fais comme Matthieu, hein, prochain épisode. Le prochain épisode, on verra comment tout ce qu'on ne sait pas a quand même de gros effets sur la vie de Moïse. On voit les résultats. Il y a ce sentiment d'appartenance au peuple, une foi en la puissance libératrice de Dieu, cette foi en Dieu qui ne craint pas la fureur de l'homme le plus puissant de la terre, une foi qui tient bon, comme s'il voyait l'invisible. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Épître aux Hébreux. Moïse avait cette foi comme s'il voyait l'invisible. Il a été instruit, nous dit aussi Étienne, dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a grandi à la cour du roi, du pharaon. Mais l'instruction de ses parents a été plus forte. Je crois qu'il y a des choses pour nous importantes là-dedans, et on le verra les prochaines fois. Parce que tous, nous tous, et tous nos enfants sont confrontés finalement un peu à la même chose. Quand on enseigne nos enfants, ils sont forcément confrontés un jour ou l'autre à l'enseignement du monde. À un moment donné, il y aura forcément, un jour, un télescopage entre les deux. Et là, j'aimerais juste dire une chose, de nouveau aux parents. Quand votre enfant viendra avec une question, mais pourquoi il faut croire en Jésus ? Surtout, ne donnez pas une réponse toute faite, une réponse dogmatique. Soyez à l'écoute. Dis, mais pourquoi tu as cette question? D'où vient cette question? Prenez le temps de lire avec lui, prenez le temps de tout simplement rappeler ce qu'est l'Évangile. C'est contrairement à ce qu'on dit bien souvent, l'homme n'est pas capable de lui-même de s'adresser à Dieu, d'être en relation avec Dieu. L'homme a besoin de ce héros que nous dévoile la Bible, qui est Dieu fait homme, qui est Jésus. Orientez les regards de vos enfants de vos petits-enfants, de vos futurs enfants, vers celui qui sauve. Dieu, ce matin on a vu, intervient de manière claire pour préserver celui qu'il a choisi pour libérer son peuple. Et rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Ayons cette foi, cette confiance dans les promesses de Dieu qui nous aide à avancer. Je terminerai avec cette parole de Éphésiens. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire. Amen.